Les podcasts de l'été de monstudio.tv. Enregistré au parc de la Morinière à Rezé lors du festival Libre Cours.
Véronique Cousinou, bonjour.
Bonjour.
Je vous reçois aujourd'hui pour que vous nous parliez de votre livre Le dictionnaire insolite des paquebots. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et ce qui vous a amené à l'écriture ?
Alors, moi je suis journaliste en fait à Saint-Nazaire et donc en fait le premier que j'ai écrit c'est le dictionnaire insolite du Québec parce que j'ai vécu au Québec. Voilà, donc cette maison d'édition Cosmopol m'avait approché pour écrire, voilà, ils ont toute une collection de dictionnaires insolites de pays ou de villes et donc j'ai fait le Québec pour eux il y a une dizaine d'années qui a été réédité 3 fois, qui marche bien toujours. Et aujourd'hui, je vis à Saint-Nazaire, je ne vis plus au Québec. Et donc, je suis correspondante en fait, du journal Le Marin. Donc, j'écris beaucoup en économie maritime. Et je couvre notamment l'actualité des chantiers navals de Saint-Nazaire. Donc, j'ai le nez dans les paquebots assez régulièrement. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai proposé à l'éditeur d'écrire le dictionnaire insolite des paquebots, un peu sur le même modèle. Donc, c'est un abécédaire, en fait. Et qui traite le sujet, mais sous un angle un peu différent, un peu le pas de côté sur le sujet, parce qu'il y a énormément de livres sur les paquebots et qui sont très bien faits, avec beaucoup d'images souvent. Et là, l'idée, c'était vraiment d'aborder tout ce qui concerne les paquebots, des paquebots évidemment transatlantiques, les paquebots d'autrefois qui nous ont tous fait rêver et qui continuent à nous faire rêver, mais parler aussi, et là c'est le côté journaliste qui reprenait un peu le pas, de parler de comment on construit les paquebots aujourd'hui. Alors qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est pas un sujet, moi je suis ni pro ni anti-croisière, je m'en fiche, c'est pas le sujet, c'est de dire, voilà, il y a un savoir-faire depuis plus de 160 ans, depuis presque 160 ans à Saint-Nazaire dans la construction de paquebots. Les chantiers de Saint-Nazaire ont été créé pour construire des paquebots transatlantiques à l'époque, pour amener les migrants vers l'Amérique notamment. Hein. Et donc voilà, c'est parler de cette histoire-là qui perdure et comment elle perdure et comment on fabrique les paquebots. Il y a plein de choses, y compris que des Nazériens ne savent pas sur la construction navale. Et puis parler aussi des paquebots de demain, comment on commence déjà à les construire, comment on fait des propulsions aussi qui vont faire en sorte que les paquebots polluent beaucoup moins et dans quelques décennies plus du tout, hein, c'est l'objectif. Donc c'est ça qui m'intéressait en fait, c'est de montrer tous ces aspects-là. Donc c'est un petit kaléidoscope à la fois d'histoire qui se passe sur les paquebots transatlantiques, sur les migrants, les émigrants qui partaient tenter leur chance en Amérique ou ailleurs, sur les stars qui ont voyagé sur les paquebots, sur comment on construit des paquebots autrefois, et c'était pas une mince affaire et souvent très dangereux, et comment on les fait aujourd'hui. Voilà, donc c'est le lien, en fait, un fil entre hier et aujourd'hui, ce qu'étaient les paquebots, ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils seront demain. Voilà.
Vous avez travaillé comment, en fait, à l'écriture de ce livre ?
Alors, comme c'est un abécédaire, j'ai pas commencé lettre A jusqu'à Z, hein, évidemment, c'est alors les choses que je connaissais, j'avais des entrées déjà. La première entrée, c'est ce que je conseille aux gens, c'est d'aller lire l'entrée paquebot pour déjà situer d'où vient le mot, comment sont nés les paquebots en fait. Et donc voilà, il y avait des mots où je savais où j'allais, et puis il y en a d'autres que c'est comme une pelote, on tire le fil et puis on cherche quelque chose et puis on découvre. J'ai aussi appris des choses sur le sujet en écrivant le livre, donc c'est un petit peu au fil des recherches vraiment que des mots, des entrées me sont venues aussi. Il y en avait des très évidentes et puis d'autres moins évidentes et moins connues, et donc c'est ça, c'est un peu un travail de chercher, trouver un mot et puis qui va amener sur autre chose, trouver des indices presque, et c'est vraiment comme ça. Et en fait, c'est le, aussi le plaisir de l'abécédaire et la frustration, c'est qu'à un moment donné, il faut s'arrêter aussi. Mais j'aurais pu faire 2 tomes où il aurait pu être beaucoup plus gros. Bon, à un moment donné, il faut rester synthétique aussi sur le sujet. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'un abécédaire, en fait, c'est évidemment pas exhaustif comme un dictionnaire classique, mais on peut toujours trouver plein d'entrées différentes. Donc il faut faire des choix après pour garder le lecteur aussi à peu près dans la dans le chemin.
Alors vous en avez parlé un petit peu, mais j'ai lu que vous aviez aussi eu le souhait de mettre en avant les acteurs en fait qui gravitent autour de la construction des paquebots.
Oui, c'est ça.
Voilà, le personnel navigant.
Oui, c'est ça. En fait, l'idée de d'écrire ce livre, c'était aussi ça. Je suis souvent au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, et en fait, c'est un peu eux qui m'ont inspiré l'envie d'écrire ce livre, c'est-à-dire de rendre hommage aussi à ces gens. J'ai eu le plaisir, les chantiers de l'Atlantique m'ont fait le plaisir de m'inviter pour le lancement du livre le 2 juin dernier, à bord du MSC World Europa, qui sera le premier paquebot fonctionnant au gaz naturel construit en France. Donc le lancement s'est fait là, c'était vraiment super, et ils ont eu la bonne idée de tirer au sort 50 salariés à qui ils ont offert le livre, donc de tout métier, et qui eux-mêmes ont découvert des choses aussi qu'ils ne connaissaient pas forcément, même s'ils construisaient des paquebots. Et du coup, c'était tout à fait, ça collait parfaitement au sujet, parce que le projet de ce livre, c'était aussi de rendre hommage aux gens qui ont construit depuis longtemps et ce savoir-faire qui perdure et les gens qui les construisent aujourd'hui. Et donc voilà, c'était aussi ça le fil conducteur du livre, c'est de garder en tête, pas parler seulement de l'histoire, de trouver des petites histoires, mais de parler concrètement de comment on fait un paquebot aujourd'hui. Voilà. Et on part vraiment, ce qui est fascinant en fait, et je pense qu'il fascine les gens à Saint-Nazaire ou à Nantes, puisqu'il y a eu des chantiers navals aussi à Nantes, hein. Cette histoire-là, elle est commune, c'est qu'on part d'une page blanche et on finit par le bateau qui part sur l'estuaire de la Loire à la fin, et tout est fait de A à Z au même endroit, quoi. Voilà, contrairement à un avion, à une voiture, où c'est un peu différent, c'est à la chaîne. Là, le paquebot, il est presque une personne, en fait, et c'est très personnifié. Et les équipages, c'est la même chose. Ils sont très attachés à leur bateau, c'est considéré comme un peu un partenaire, comme une personne. Et je trouvais aussi intéressant de parler de cet aspect-là. C'est pas un objet industriel comme un autre, quoi, un paquebot. Y compris aujourd'hui, on peut les trouver moches, peu importe, mais c'est quand même c'est quelque chose d'attachant. Moi, au chantier d'Atlantique, souvent quand je parle avec les salariés, les jours de départ de paquebot sur l'estuaire de la Loire, voilà, il y a énormément de monde qui vient dire au revoir au bateau, c'est très émouvant. L'équipage aussi salue, enfin le bateau salue avec des coups de cornes de brume, c'est vraiment chouette à voir. Et puis les salariés, ils me disent toujours, on amène notre famille et tout, et puis les enfants, c'est toujours, ah, on va voir le bateau de papa, le bateau de maman, quoi. C'est comme ça qu'ils en parlent, quoi. Donc il y a vraiment un attachement à ce qu'ils font. Et le côté aussi, chacun a un rôle. Il y a presque 4000 salariés au chantier, plus les sous-traitants, c'est presque 10 000 personnes qui travaillent sur les paquebots. Et chacun a son rôle, quoi. Au chantier, c'est aussi important. Il y a les soudeurs, il y a les ingénieurs, les techniciens, mais tout le monde fait un petit bout de quelque chose qui, au final, fait ce bijou technologique, parce que encore une fois, hors de tout jugement esthétique, ce sont des bijoux technologiques et c'est assez incroyable, quoi. Voilà. Donc c'était aussi ça que je voulais rendre dans ce livre, montrer cet aspect là aussi, quoi. Montrer les hommes et les femmes derrière l'acier.
Est-ce qu'il y a une anecdote plus que l'autre qui vous a marqué parmi celles que vous avez pu découvrir ?
Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein, mais celle que j'aime bien raconter, c'est à l'entrée clandestin, donc à l'époque des paquebots transatlantiques. Évidemment, aujourd'hui, monter sur un paquebot, il y a des caméras partout, tout est électronique, on a une petite carte de croisière, les croisiéristes, l'équipage a aussi une carte. Évidemment, on ne monte pas comme ça sur un paquebot et pour des raisons de sécurité et de sûreté. Autrefois, c'était beaucoup plus facile, on va dire, de grimper en douce sur un paquebot et puis d'être clandestin. Et donc, il y a l'histoire d'une jeune lettonne, donc c'est en 1948, 46, juste après-guerre, donc, qui a embarqué à Cherbourg sur le paquebot Île-de-France, qui était un magnifique transatlantique construit à Saint-Nazaire, et qui avait échappé au camp de la mort. Et donc elle a embarqué enceinte sur ce paquebot, son mari qui devait... embarqué avec elle pour lui donner toutes les chances de ne pas se faire prendre. Finalement, il est resté à quai. Donc elle a embarqué à Cherbourg. Et 2 jours après, elle a couché sur le bateau, en fait. Et du coup, bah, elle n'était plus tellement clandestine, évidemment. et elle a été merveilleusement accueillie, l'équipage, le commandant. Tout le monde a pris cette femme un peu sous son aile. Les autres passagers, les passagers de première classe, elle a été choyée. On lui a donné une belle cabine, voilà, et pour elle et sa petite fille. Et en fait, à bord, donc parmi les passagers de première classe, il y avait un certain Marcel Cerdan qui allait boxer à New York. Et avec d'autres passagers, ils ont dit, mais c'est une histoire extraordinaire quand même, cette petite fille qui naît en mer, sa mère qui a échappé au pire, enfin, il faut faire quelque chose, quoi. Donc ils ont fait une levée de fonds à bord qui était très très conséquente, et ils ont offert l'argent en fait à la mère et à sa petite fille pour qu'elle commence une vie meilleure à New York. Et c'est vraiment une histoire vraie, une belle histoire de paquebot, et aussi de solidarité, de ce qui peut se passer en mer, où justement la solidarité est forte, c'est-à-dire on peut être enfin, qui est réel aussi, hein, aujourd'hui, hein, on le voit avec les migrants, je veux dire, les gens de mer, ils se posent pas de questions de savoir d'où viennent les gens, on les sauve, quoi, quand ils, voilà, il n'y a pas d'histoire, de politique, de religion, les gens de mer, c'est les gens de mer, et quelqu'un en difficulté, on s'en occupe, quoi. Donc ça a toujours été vrai dans le milieu maritime. Et mais voilà, ça c'est une des histoires que j'aime bien raconter. Et à bord, le commandant, avant l'arrivée à New York, avait même appelé le président Roosevelt aux États-Unis pour que cette femme-là, à l'arrivée à Ellis Island, donc où passaient tous les migrants en quarantaine, qu'elle ne soit pas refoulée, parce que certains étaient refoulés, soit parce qu'ils étaient malades ou qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour vivre, pour commencer à s'installer, mais surtout maladie. Donc que cette femme-là puisse vraiment, avec sa fille, vivre sa vie à New York, et ça a été le cas. Voilà. Donc c'est une belle histoire dont on pourrait faire un film sans aucun doute, mais inspirante, et qui relate bien ce qu'était et l'importance qu'ont eu les paquebots dans l'espoir de donner beaucoup d'espoir aux gens, et de changer de continent pour des raisons de famine, pour des raisons religieuses ou politiques à l'époque, puisque en 100 ans, en fait, c'est fou, hein, quand on dit le chiffre, mais entre 1800, le début du 19e siècle et le début du 20e siècle, jusqu'à l'aube de la Première Guerre mondiale, il y a eu 72 millions d'Européens qui ont quitté leur pays, quoi, pour aller en Amérique, alors de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, mais c'est fou, quoi, en 100 ans. Et tout ça, bah, c'est les paquebots qui ont amené ces gens-là. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez du coup envie de continuer dans des projets littéraires insolites ?
Bah, alors bon, voilà, après il faut pas que ça devienne non plus. Hein. Pour l'instant, il va vivre sa vie, il va voguer vers son public, c'est ce que je lui souhaite. Et puis,
il est sorti il n'y a pas longtemps.
Il est sorti il y a un mois.
Voilà, voilà.
Effectivement. Donc il est tout jeune, donc j'ai plaisir à le présenter partout, voilà, où on m'invite le présenter. Et pour l'instant, je continue mon métier de journaliste aussi. C'était pas une mince affaire d'écrire un livre quand on passe déjà ses journées à écrire toute la journée. mais donc pour l'instant, j'ai pas d'autres projets, mais peut-être toujours lié à la mer, voilà, c'est un sujet très vaste, et puis encore une fois, avec toujours l'humain derrière, quoi. Voilà, pas seulement le côté industriel pur et dur, mais peut-être un livre sur les chantiers atlantiques à un moment donné. Mais enfin, il n'y a rien du tout de fixé, mais voilà, c'est des sujets qui m'intéressent.
Ouais. En tout cas, vous en parlez très bien.
Merci. Je suis bavarde. Pourtant, je suis plus presse écrite et livre, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'a passionnée à écrire, donc ça m'intéresse.
Bon. Merci beaucoup, Véronique.
Merci à vous.